Génération Prestart.
Génération Prestart.
Try again.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Try Again, un peu particulier ce soir parce que je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, nous avons une invitée surprise, une invitée mystère, une invitée qui est là pour nous faire rêver, une invitée qui s'est voyagée dans le temps. Bonsoir Clotilde.
Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir aussi à tes camarades que je te laisse présenter.
Mais en fait, elle s'est trompée de porte, de studio, c'est pour ça qu'il y a une erreur.
Elle est très bien ici, moi je suis super heureux de la recevoir ce soir. Donc oui, effectivement, on a déjà entendu Nelly.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Clotilde, très contente
en pleine forme
que je ne sois pas pour une fois la seule fille.
Mais oui, on va créer une ligue, t'inquiète pas.
Ce soir c'est 50-50 parce que l'autre homme qui est en face de moi, c'est un homme, un geek de guerre, vous l'aimez tous, le voilà, l'homme à l'anecdote perso, à la blague pointilleuse, Eli.
C'est bien moi, bonsoir à tous. Alors ce soir, parité, deux hommes, deux femmes, c'est bien ?
Ouais.
Super, ça fait plaisir. Donc je vais vous annoncer le petit programme de la soirée. Et ben, notre invité nous a préparé un sujet plus que costaud sur les chevaliers de Baphomet. C'est quand même pas mal. Puis je vais en profiter pour faire quelques coucous, parce que un petit coucou à Lionel, qui malheureusement n'a pas pu venir. C'est tant pis, comme ça arrive, hein. Donc coucou à toi, bien que je pense qu'il sera sur le chat en train de nous écouter à l'heure actuelle, de réagir, de faire plein de choses dans sa vie, des trucs bien. Un petit coucou à nos partenaires de culturegames.com, parce qu'on les aime bien et qu'on traîne toujours là-bas. Un petit coucou à nos habitués du forum, ou des forums, je dirais, que ce soit Culture Games, le Node, des pages Facebook, de tout ça, bref.
Ouais, il y en a, hein.
Bon, tous nos habitués, quoi. Et on va commencer rapidement cette émission en s'écoutant un petit morceau de musique qui est tout simplement l'introduction du jeu, ni plus ni moins, et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti.
M57 Radio.
Paris en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour et de mort.
Try again.
Vous êtes toujours à l'écoute de Try Again dans Génération Prestart, votre partie rétro du jeu vidéo. Le temps pour moi de vous dire que ce soir nous allons avoir des CG codes à gagner. Et oui, ni plus ni moins. Et puis tout de suite, sans plus attendre, je vais passer la parole à Nelly qui va nous parler de qu'est-ce que c'est que les point and click.
Oh Martin, tu cliques ou tu pointes?
Ah, je pointe. Hein.
Je sais absolument pas faire l'accent, ça y est, il fallait que je la fasse.
Elle est pas mal.
Bon, donc aujourd'hui, je vais vous parler du point and click, puisque en effet, les chevaliers de Baphomet utilisent ce gameplay un peu particulier. C'est pas trop dur à comprendre, hein. Point and click, pointer et cliquer. C'est-à-dire que pour avancer dans ce genre de jeu, c'est ces deux actions en général qu'il va falloir utiliser. On va pointer en général avec son curseur des objets, des personnages, et on va cliquer pour voir si l'on peut interagir avec, faire des actions, discuter, apprendre des choses. Alors évidemment, ce genre de jeu est né sur PC, puisque pour pointer et cliquer, il y a quand même rien de mieux à mon sens, qu'une bonne vieille souris, même si on verra avec les chevaliers de Baphomet que les consoles se sont mises aussi à ce genre-là. Alors certains considèrent que ce gameplay, que ce style, ce mode de jeu est né dans les années 70 avec les fictions interactives. Alors moi j'ai jamais testé les fictions interactives, mais c'est des jeux dans lesquels il fallait ouvrir des boîtes de dialogue dans lesquelles on écrivait des actions et le personnage répondait à l'action type qu'on lui a demandé de faire. Il y en a d'autres qui disent que c'est né un petit peu plus tard. Ils préfèrent voir la naissance dans les années 80 avec évidemment la généralisation de l'utilisation véritablement de la souris, où là vraiment dans ces jeux-là on va vraiment pointer et cliquer.
Ah, parce que avant en fait tu faisais que taper au clavier, ils pointaient pas, c'est ça?
Pas vraiment, ouais, voilà, ils ouvraient une boîte de dialogue et on tapait des mots, on dialoguait, il y avait un code.
Pas.
Et alors est-ce qu'on pointait pas du tout dans le jeu? Peut-être que si, enfin non, parce que
non.
Prendre un objet, il fallait écrire
Le
code utiliser, voilà.
Quand tu veux te déplacer, tu dis par exemple je me déplace vers l'est ou vers l'ouest.
Ouais, voilà. Ouais. Donc effectivement, tu vois, les actions, elles étaient pas vraiment là.
Entièrement clavier.
C'est vrai que le personnage était guidé par un ordre, mais l'ordre n'était pas donné par le pointer cliquer, si
voilà,
tu veux.
C'était une action que tu écrivais qui ensuite se répercutait dans le jeu.
Voilà.
D'accord.
Et donc ceux qui voient plutôt la naissance dans les années 80 relient ce gameplay avec Enchanted Scepters, qui est sorti en 1984 sur Macintosh. Alors pas de question sur le jeu, je ne le connais pas.
Moi non plus.
Mais c'est les sources qui se sont répétées à plusieurs reprises quand j'ai fait mes petites recherches. Alors évidemment, depuis, le style s'est propagé, grâce en particulier à deux grandes maisons, LucasArts et puis Sierra, qui sont devenus des spécialistes en la matière. Hein. Ça, il y a rien à dire, c'est vraiment les deux gros dans ce style-là. Ils sont devenus tellement spécialistes et ils ont quand même produit tellement de jeux qu'on va avoir des types différents, moi je trouve, de point and click. Moi, mes trois références que je vais vous citer sont vraiment dans trois styles différents. Ma première référence, c'est un peu une référence un peu délirante, c'est Discworld 1, où on joue un magicien complètement loufoque qui va devoir faire des associations d'objets complètement loufoques et qui va rencontrer des personnages complètement loufoques. On est dans un univers complètement retourné. C'est un LucasArts, ouais, je crois.
Okay.
Et on est embarqué malgré tout. Parce que c'est tellement fou qu'on veut associer, qu'on veut voir ce que ça va donner. Enfin, c'est très délirant. Mon deuxième préféré, c'est dans le genre un peu horreur, c'est Phantasmagoria, où on va évoluer dans un manoir hanté. Et c'est une dame avec son mari qui emménage dans ce manoir et elle va voir tout le long du manoir des hallucinations. Elle va comprendre que le manoir est tenté par un homme qui avait tué violemment ses femmes, ses multiples femmes. Et donc on voit, il y a des scènes un petit peu gore et elle va devoir évidemment lutter contre ce fantôme qui a tendance un petit peu à aller hanter son mari. Donc
il me semble qu'à l'époque il y avait
cité
Boris ce jeu-là parce que justement il était, je crois, interdit au moins de 18 ans.
Il était interdit.
Ça, hein.
Alors je sais plus si c'est au moins de 18 ans, mais effectivement 16, il y avait des scènes.
Ouais, il avait fait du bruit là-dessus. Hein.
Et puis pour finir, mon préféré, parce que Martin il a dit que c'était pas du rétro, alors j'étais un peu fâchée, mais j'arrive quand même à le mettre.
Ah, je sais bien ce que c'est.
C'est Siberia de Benoît Sokal, qui est quand même magique. On joue Kat Walker, qui est une avocate new-yorkaise, et qui va devoir se plonger dans un monde magnifique, beau, magique, envoûtant, et qui va aller jusqu'en Sibérie pour pouvoir retrouver, régler une histoire d'héritage et d'héritier. Et cet héritier, il évolue vraiment dans un monde magique. Il est créé, créateur, inventeur, un petit peu loufoque aussi, et on va devoir rentrer dans son monde. Il est fan évidemment de la Sibérie, et on va rentrer dans son monde, dans ses ateliers, on va rencontrer des personnages que lui-même a construits, et à travers ça, on va arriver peut-être pas jusque en Sibérie, on va voir des choses. Et ça, c'est vraiment, ouais, le monde, il est magnifique. L'univers créé, il est
sublime.
Avec les automates.
C'est pas comme avec les automates. Ouais. Ouais. C'est pas comme dans le même style que Discworld où c'est très beau aussi, mais Discworld ça va être plus cartoonesque, BD.
D'accord.
Alors que Siberia ça va être vraiment réaliste. Phantasmagoria aussi. Hein, c'est des images très réalistes où justement les personnages sont quasiment filmés.
D'accord.
C'est vraiment des acteurs qui jouent un peu. On a l'impression d'avoir des vrais personnages.
Je peux t'embêter un petit peu. J'aimerais faire un rapide tour de table que chacun puisse dire ses trois point and click préférés. Peu importe le support. On va commencer par Ellie.
Alors moi, mes point and click préférés,
les trois préférés,
c'est
rapide.
End of Fate de Westwood sur PC, ouais. Full Throttle ouais. Et Day of the Tentacle.
D'accord. Clotilde.
Indiana Jones et Chevalier de Baphomet, Runaway, mais il y a aussi Blade Runner, et enfin, si on peut le considérer comme ça, on va dire Professeur Layton.
D'accord.
Ah, c'est vrai. Ah, voilà. Ouais. Sims aussi, on pourrait le considérer comme un point and click dans son style, hein, puisqu'on pointe et on clique. Ah, oh, on en a déjà parlé
c'est
quand
un
même.
Un peu différent
pointe,
quand même.
Non, je suis désolée.
Moi, je sais que ceux qui m'ont le plus marqué, c'était Day of the Tentacle et Sam & Max de Lucas sur PC, voilà, qui m'ont vraiment fait rêver
ouais.
Très longtemps.
Ouais. Et Lionel, qui n'est pas là, je pense qu'il vous dirait Indiana Jones parce qu'il en a déjà parlé ouais, avec ouais, Chloé ouais. Et effectivement ses souvenirs d'enfance.
Moi pareil, j'ai des souvenirs sur
Indiana
ce jeu,
Jones, ouais.
Sympa.
Voilà. D'accord. Bah écoute, ça fait plaisir en tout cas.
Ouais. Sibéria.
on a compris. Ben moi je vous propose qu'on écoute tout de suite une petite musique qui s'appelle Connais-tu les Templiers? C'est vrai. Qu'est-ce que sont les Templiers? Donc c'est une petite phase de jeu hein. Et après on va se retrouver pour que justement laisser la parole à Clotilde qui va nous parler du Chevalier de Baphomet. Là je vois qu'elle a le trac. C'est rare. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir?
J'ai envie de bien travailler.
Mais tu vas très bien travailler. Donc en attendant on s'écoute une petite musique et on revient juste après. Allez, restez à l'antenne.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Tu connais les Templiers? Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. Un homme nommé Hugues de Payen est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem. Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en Terre Sainte. Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins. Et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. L'homme responsable de leur chute était le roi Philippe IV. Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Mais le trésor des Templiers ne fut jamais retrouvé.
Génération Prestart.
Vous êtes toujours à l'antenne de Try Again. Je vous rappelle qu'il y aura des CG codes à gagner en fin d'émission. Et en attendant, je laisse la parole sans plus attendre à notre invité d'honneur du jour et de charme, Clotilde.
Oui. Je vais sortir en fait, je vais partir. J'ai trop peur de mal faire parce que franchement là on va parler d'un jeu exceptionnel, les Chevaliers de Baphomet. En 1996, le monde du jeu vidéo va connaître une véritable révolution. En effet, enfin un jeu vidéo va mériter l'estime de chacun, qu'il s'agisse des parents ou des enfants. Quoi de mieux que de s'amuser tout en participant à un cours d'histoire passionnant où l'on doit activer, si ce n'est faire bouillir nos neurones pour s'en sortir. Vous l'avez compris, je l'espère, c'est ça un bon jeu vidéo les amis. Enfin, j'espère, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu bourrins autour de la table parfois.
Non, on aime bien la finesse.
T'as pas cassé le guide de guerre, mais c'est tout. Hein.
Dans ce style-là, en tout cas, c'est ce qu'on attend, parce que évidemment, on va vouloir résoudre des énigmes, mais souvent, c'est lié à une super belle histoire, quoi.
C'est ça. Voilà, s'amuser, apprendre, rire, découvrir, débloquer des situations, et le plus dingue, dans tout ça, c'est qu'on adore et on en redemande encore et encore. Donc, si
c'est
vous n'avez
le début,
pas.
D'accord.
Si vous ne l'avez toujours pas compris hein, et ni deviné, je parle bien effectivement des Chevaliers de Baphomet, premier du nom.
Parce
que les autres,
il y a des suites, ouais.
On en parlera après. Ce fabuleux jeu développé par Revolution Software et édité par Avalon Interactive est sorti en septembre de l'an de grâce 1996 sur PC. Mais je l'avoue, oui, honte à moi, alors que je n'étais âgée que de 11 printemps. Et oui, je m'en souviens bien. Hein.
Ah, c'est pas mal.
Eh bien, j'ai découvert ce petit bijou que quelques mois plus tard, en décembre de la même année. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix ?
Parce que tu n'y as pas joué sur le même support.
Et voilà, justement, sachez que le jeu est toujours développé donc par la même boîte et sorti en décembre 96 sur notre chère console de salon, la PlayStation 1.
C'est volontaire que t'aies choisi la PlayStation ou c'est parce que t'as, du coup t'avais pas de PC ou...
En fait, mon frère a acheté le jeu et je jouais.
D'accord.
Très bonne raison.
C'est souvent voilà. Comme ça, c'est vrai. Hein.
Donc cette version, éditée cette fois-ci par Sony par contre, hein, ça il faut le retenir, était pourtant initialement prévue pour la mi-septembre, mais malheureusement, nous avons dû patienter. C'est pas grave, on a pu y jouer et maintenant on s'en souvient bien. J'ai donc découvert ce jeu de référence du point and click et d'aventure sur un support qui ne fut pas des plus adaptés et pourtant j'en suis encore aujourd'hui totalement accro.
Ça prouve qu'il était bien fait.
C'est ça.
Ah ouais, c'est vrai, hein. Ouais.
On va en venir quand même au fait avant que je commence à me lancer dans mon autobiographie vidéoludique. Hein. Les chevaliers de Baphomet, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, on va dire, pot de poli. Voici un trésor d'une valeur inestimable si vous avez la chance encore de le posséder chez vous. Ne le vendez surtout pas. Pour faire court, tout commence par une vue de Paris. Un Paris idyllique, une vue des plus apaisantes. Mais pourtant, il y a une petite ombre au tableau. Pourquoi ?
Laquelle ?
On voit déjà un corbeau tourner autour de cette vue qui tourne autour de nous. Et puis là, d'un coup, la vue devient plongeante. Et on arrive, on voit un belâtre blond.
Un beau corps, oh, un corbeau.
À la terrasse donc d'un café parisien. Ce beau blondinet ne semble pas très très heureux. Il est apparemment envahi par l'ennui. Il manque de choses intéressantes à faire, semble-t-il. Pourtant, il y a la petite blondinette justement, la serveuse, qui commence à lui faire un petit peu du rentre-dedans. Hein. Ça parle pas, mais on comprend de suite. Hein. Et puis... là, sortant de nulle part, d'un coup, une marée de ballons envahissent tout simplement l'écran. Et hop, il y en a un qui explose et on découvre un clown qui est en train de rigoler et qui va en sautillant tranquillement dans le café. Et là, d'un coup, on le voit ressortir avec une mallette qu'il n'avait pas, il n'a plus son accordéon et je n'ai plus qu'une chose à dire, boum.
Ouais.
Voilà.
Bon, le clown, il est pas très rassurant dès le départ. Hein. C'est pas le genre de clown qu'on aime voir.
C'est pas mal de cirque et tout ça.
C'est genre un clown de film d'horreur, quoi, limite zombie, quoi.
Voilà.
Non, peut-être pas quand même jusque-là, mais on voit qu'il a un sourire un peu sadique et.
Ouais, méchant, quoi.
Il y a beaucoup de monde qui ont peur des clowns. C'est peut-être à cause de ça.
Je pense que de ça, oui, le film, ça plutôt. Mais bon, on va dire que c'est un clown qui, par exemple, quand il rigole et qu'il arrive au tout début du jeu, c'est.
Voilà.
Donc ça fait pas, c'est pas rassurant. On comprend de suite ce qui va se passer, enfin plus ou moins. Mais pas d'inquiétude hein, en tous les cas pour les demoiselles qui aiment comme moi le petit blondinet de service, car il est toujours sur la terrasse. Il s'en sort indemne, certes sous un parasol, hein, mais bon, on va dire qu'il est temps pour moi de faire les présentations car c'est un peu un ami intime. Hein. J'ai l'honneur de vous présenter le plus français des Américains, George Stobart. Oui, c'est lui, notre héros du jour, le blond de la terrasse qui s'est fait souffler par un attentat à la bombe et qui se relève sans une égratignure comme Schwarzenegger.
Question pour vous les filles, est-ce que vous le trouvez beau ?
Il est magnifique.
Ah ouais.
Il vous fait envie là, les deux. Ah, il vous fait rêver. Hein.
Non mais
il est génial.
Il a un côté intello, tu vois. Il est mignon, il a un côté intello. Il est pas très musclé, mais tu vois, on voit dans ses yeux qu'il a du charme.
D'accord, il a de la gueule. Ah, quoi.
Il a de la gueule, ouais.
Mais il a surtout un accent, et ça, on va en parler après.
Un accent un peu spécial, ouais.
Donc, Georges est venu à Paris, normalement, pour passer des petites vacances, mais ça, c'était au mauvais moment, il faut croire. Car en l'espace de quelques secondes, Stobart se retrouve témoin d'un attentat en plein cœur de Paris, et cela semble l'intéresser, que dis-je même le passionner, bien plus que son séjour touristique. Tu m'étonnes, en même temps, c'est pas tous les jours que l'on voit un clown exploser en morceaux un café. En général, un clown, c'est plutôt censé nous faire exploser de rire, tout simplement.
Ah, ça, c'est vrai.
Voilà. Je suis pas allée la chercher très loin, celle-ci.
Elle est bonne,
Donc, poussé par une curiosité encore jamais égalée à ce jour, Georges se met bien en tête de découvrir qui est à l'origine de cet attentat et pourquoi il a été commis. Georges va vite découvrir que cette histoire est bien plus que une simple histoire d'attentat, c'est bien plus complexe, elle est dangereuse aussi. Et là, on va se dire, pourtant, maman, elle t'avait dit, hein, qu'il ne fallait pas être trop curieux, c'est la curiosité, c'est un vilain défaut. Mais ça ne va pas l'empêcher. Non, je ne comprends pas. Normalement, tu vois un attentat, t'es choqué, tu rentres chez toi. Mais bon, il n'y aurait pas pu avoir de jeu.
Lui,
parce qu'en plus, il y a un mort. Hein.
Ah oui, tout de même, voilà.
Alors, quand même, lui, il se relève, il commence un peu commence à fouiller, tout.
Il en redemande.
Oui, il en redemande, surtout avec la serveuse. Non, je rigole. Justement, non. Elle est bien, la serveuse. Hein. Elle a l'air très ouverte, on va dire. Mais non,
peut-être
ça l'intéresse
trop,
pas. Ouais, peut-être trop, on va dire.
Facile.
Bref, tout au long de cette aventure trépidante, notre Américain favori sera épaulé par la froide et pourtant bouillante Nicole Collard, ou Nico pour les intimes. Cette demoiselle fait en fait son entrée très très rapidement. Elle vient au tout début du jeu, elle prend deux minutes à venir sur le lieu. Elle prend des photos, car c'est une journaliste, hein, il faut bien qu'elle s'intéresse un petit peu à cette histoire. Donc très rapidement, un duo va se former, même si on va pas jouer Nico, mais voilà, il y a une petite histoire derrière tout ça, et on en parlera aussi par la suite.
C'est vrai que Georges devient très familier, très vite avec elle, hein, Nico.
Ah bah oui, hein.
C'est très marrant comment ouais. ça se fait. Hein. Très vite, ils sont dans l'enquête, il se fait ami-ami,
bon,
il commence à être sympa l'un avec l'autre. Bon, elle est un peu... pec sec et elle a ce côté un peu mais c'est pas repoussant, je pense que tu vois, tu nous demandais pour nous les filles le héros, mais je pense que la fille doit bien plaire
que pour nous les hommes la fille
ouais,
est bien quoi.
Elle est sympathique
elle est sympathique pour les mecs, mais moi je peux pas la supporter. Je crois que je suis jalouse en fait.
Ah c'est ça, j'ai failli te le demander avant en fait.
Oui non mais c'est ça.
Ah, non, mais tu l'avoues, c'est bien.
Mais tout à fait, j'assume. À force de fuiner un peu partout, d'être à la limite même du harcèlement, Georges va vite donc se retrouver dans une histoire politico-historique en fait, tout simplement un complot même on va dire, dont il ne connaît ni les limites ni les enjeux.
D'accord.
Et là, bah rapidement, hein, après avoir mené une enquête plutôt approfondie, le périple se déroule aussi au travers d'une Europe regorgeant de mystères, tout en faisant un petit détour jusqu'en Syrie même. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on découvre aussi la géographie. Donc voilà, si vos enfants ne sont pas bons en histoire géo, vous ressortez ce vieux jeu. C'est tout.
C'est une bonne raison. Hein. C'est
bah
une
ouais,
bonne raison.
Non, c'est vrai.
Pour les accents, ils maîtriseront aussi.
Ah ouais, je pense. Hein.
J'imagine bien.
Du jeu, il y a des accents dans tous les sens.
Le gamin rentre à la maison, maman, la maîtresse, elle m'a dit que je vais jouer aux jeux vidéo.
Ah ouais.
Pas mon cours de géographie.
Et voilà, c'est bien. Et donc justement, mais là on parle des chevaliers de Baphomet, on dit que c'est en rapport avec les Templiers, mais où sont donc ces fameux Templiers ayant donné le nom
question.
À ce merveilleux jeu ? Eh ben, il ne faut pas s'inquiéter, le mystère des Templiers est et reste le fil conducteur hein, quand même de tout ce scénario, mais pour cela, je préfère quand même prévenir les auditeurs, il va falloir jouer un petit peu, environ une heure, je dirais une heure et demie, juste le temps de découvrir en fait un étrange bout de tissu qui fait référence à cette légendaire congrégation, j'ai du mal, et qui est étroitement liée à cette enquête menée de front par Georges et Nico. Voilà.
La première partie du jeu se passe beaucoup par rapport au clown, la recherche de qui
voilà.
il est. Et c'est vrai qu'on passe un...
Tu dérives après dans
comme
le jeu,
tu dis, une petite heure et demie, je pense, avant de se lancer véritablement dans
voilà.
le fil rouge.
On
de
commence
la
par
tard,
le
quoi.
Politico avant de rentrer dans l'historique, on va
D'accord.
dire.
C'est pas gênant, hein. Ça paraît pas énorme
non,
par rapport
gênant.
Au reste du jeu, parce que ça nous permet de découvrir les personnages, en fait, tout simplement.
Ouais, ouais.
Okay. Et de bien prendre place quand même à Paris aussi. Il faut bien s'imposer.
On
il faut être chauvin de temps en temps.
Ouais, il faut montrer la ville. Ouais.
Voilà. Et bien moi je vais faire point par point quand même les points des chevaliers de Baphomet.
Allez, c'est parti.
Si ça vous dérange pas, on va
non,
parler des
vas-y.
Graphismes.
Point and click.
Vas-y.
Oui,
voilà.
Click.
Point
click.
And point. Là pour le moment. Donc bah les graphismes, je les trouve tout simplement époustouflants encore aujourd'hui. Le jeu n'a pas vieilli, c'est une 2D façon cartoon qui bah, n'a rien envie à la 3D actuelle, très simple, tout simplement.
Ça pourrait être un véritable dessin animé.
Ah
hein,
oui, franchement, voilà, ah ouais. pour moi c'est un dessin animé. Le seul bémol, bon, on va dire, c'est que dans les cinématiques, Stobart fait plus vieux parce que les traits sont tout simplement un peu trop appuyés.
Mais peut-être pas si jeune que ça.
Hein. Il perd son charme alors, c'est ça ?
Un petit peu. Hein.
j'ai compris, tu voulais en
Mais bon, dire. Dans les scènes habituelles, justement, on reste épaté par le nombre de détails que l'on peut y retrouver, ce qui nous force à fouiller un peu partout. Et on aime bien hein, chercher vraiment partout pour trouver notre bonheur. Et je préviens ces messieurs, hein, il ne faut pas non plus chercher à trouver la petite culotte hein, de Nicole dans son appartement. Elle n'y est pas.
On la trouve
pas.
Nico
bah, elle est sur elle, non ?
Il n'y a pas beaucoup
voilà.
de possibilités dans l'appartement de Nico.
Non.
Elle t'invite à la limite, si elle est gentille, elle t'invite à s'asseoir avec elle à la table pour discuter.
Elle t'invite même pas en fait, tu rentres et puis tu t'assois en général.
Oui, c'est vrai en plus.
À l'américaine, tu t'invites.
Voilà, c'est tout à fait ça. Bon, plus sérieusement, le développement du jeu fut au départ en version PC hein, et se trouve être en du langage C.
D'accord.
Voilà. Mais pour la PlayStation 1, le jeu a été développé en seulement quelques mois, donc ça a été du mois d'avril au mois de décembre, hein, et il tire parti des capacités incroyables que possédait à l'époque la console. Un affichage haute résolution de 24 images par seconde et 16 millions de couleurs en 24 bits. J'arrête de faire ma geek maintenant parce que bon, je suis un peu perdu maintenant. Et je vous informe que vous aurez droit aussi quand même à 18 cinématiques dignes d'un bon Disney au cours du jeu vidéo.
C'est très bien.
C'est déjà pas mal.
C'est ouais. grâce au support CD, tout ça. Hein.
Oui, oui, voilà.
Ouais, ah, forcément.
Mais bon, bah, on parlera de la jouabilité, de la durée de vie et de plein de
choses
après.
Plein de choses après. Hein.
Parce que je prends beaucoup de temps, apparemment.
Mais il faut, il
non,
faut.
Non, mais c'est ta soirée aujourd'hui.
Ok, c'est parti.
Tu vois, c'est-à-dire, bon. tu es là, tu es comme à la maison.
Alors, tu vas m'enlever ce jingle.
Voilà, non, ça, j'ai tout enlevé. Non, je déconne.
Non, je te laisse faire ton travail.
En attendant, on va quand même s'écouter une petite musique parce que, ben voilà, tu en as choisi une belle petite musique. Alors, je tenais à préciser que ce soir, les musiques sont composées, si je ne m'abuse, par Parrington Fellong, c'est ça ?
Oui, voilà, un compositeur australien.
Et que la prochaine musique, c'est la musique Ubu.
De l'hôtel
Ubu.
De l'hôtel Ubu, voilà, de l'hôtel.
Voilà.
Reprenez-moi s'il le faut, c'est très bien de l'hôtel. Et après, ben, tu continueras à nous en parler dès que c'est fini. Ok ?
Pas de problème.
À tout de suite.
N57 Radio.
Qu'est-ce que c'est que cette psycho-enquête que vous avez menée dans le café ?
C'est ma théorie. Les passions déchaînées par un crime violent forment des vaguelettes dans l'espace. Invisibles pour tous, sauf pour un être doté d'une logique supérieure et d'un esprit hautement réceptif.
Vous m'impressionnez. Vous pouvez tordre les cuillères aussi ?
Je ne pensais pas qu'un homme de votre intelligence s'abaisserait à faire de l'ironie.
Je ne me moque pas de vous. J'ai moi-même fait l'expérience de la puissance de l'esprit. Personne ne me parlait jamais dans les soirées jusqu'à ce que je lise un livre qui a bouleversé mon existence.
Vraiment ? Comment s'appelait-il ?
Devenez riche et rigolez bien grâce à l'hypnotisme. Il me regardait comme si j'avais pété à un enterrement.
Thank you. Try again.
Try again.
Et nous voici de retour dans Try Again pour avec aujourd'hui les Chevaliers de Baphomet. On a entendu une sublime musique au piano. Je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, bah c'est super sympa. C'est une Anglaise qui joue ça dans l'hôtel Ubu. Une des scènes, une des toutes premières scènes, on pourrait dire ça, du jeu Les Chevaliers de Baphomet.
J'en reparlerai vers la fin.
D'accord.
Voilà.
Ben, moi, je te rends la parole sans plus attendre parce que je sens que t'es motivé, t'es remonté à bloc là.
Non, je sais pas, tu posais une question, je réponds.
Non,
c'est bien de situer les chansons, les musiques et puis en plus on entend des dialogues donc c'est sympa ça.
Ça change un peu.
Ouais. Par contre, ouais, voilà, le problème c'est que le dialogue ne vient pas de l'hôtel Ubu. Le dialogue vient tout simplement en fait de la scène du commissariat à Paris où le commissaire explique ce qu'est la psycho-enquête parce qu'il est un petit peu accro à tout ça, à tout ce qui est assez occulte mais en même temps plutôt réaliste de type hypnose, etc.
D'accord.
Et on en parlera après, je pense aussi, si on peut rebondir là-dessus.
Rebondis sur ce que tu veux.
D'accord, y a pas de problème. Attention, hein. Bon, bah maintenant, après avoir parlé des graphismes, à moins que vous ayez quelque chose à dire autour de la table par rapport au graphisme, on va parler de la jouabilité. Et là, je sais que quelqu'un va me grogner après. Ils sont même deux à côté de moi, ils vont grogner.
C'est possible.
Mais c'est assez simple quand même en soi. Il y a l'écran qui est divisé en plusieurs parties. Il y a la partie du haut, avec les objets qu'on récupère et qu'on peut utiliser, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Et la partie du bas. Oh bah mince, je ne me rappelle plus comment dire, expliquer.
Il y a les personnages.
Voilà, il y a les personnages pour dialoguer.
Voilà, les questions qu'on peut poser aux personnages sont représentées par une petite image. Par exemple, si on veut interroger un personnage sur le clown, en bas on va avoir l'icône, la tête du clown.
Voilà. Donc, ce n'est pas forcément tout le temps évident parfois. Suivant les questions qu'on veut poser, on pense qu'on va poser telle question. En réalité, on pose pas du tout cette question.
Et puis les petites images ne sont pas toujours des fois très claires pour reconnaître le personnage ou le sujet qu'on va aborder. Donc des fois on se dit, bon bah j'ai pas cliqué. Et ça, je clique ça, mais on sait pas du tout ce qu'on va demander. Voilà.
J'avoue que j'ai pas joué au jeu, j'ai une question à faire par rapport à ça. Est-ce que si maintenant tu poses une question à un personnage sur une des thématiques là, il va donner une réponse spécifique, et suite à cette réponse, ça peut, par exemple, t'enlever d'autres sujets de discussion que tu pourrais avoir avec lui?
Ça peut, ça t'en rajoute. Tu peux aussi, d'un coup, t'as plus l'icône de ce personnage là.
D'accord.
Mais vu que tu vas lui poser une autre question, t'auras à nouveau l'icône qui va revenir, des choses
d'accord,
comme ça.
D'accord, donc après, tu peux les faire revenir, donc tu peux avoir différents.
Okay, à savoir que c'est ça qui est vachement bien dans les Chevaliers de Baphomet, c'est qu'on peut tout simplement, en fait, par exemple, je suis pas, au tout début du jeu, la serveuse demande vous êtes médecin, tu peux répondre oui ou non.
Donc tu peux mentir.
Voilà, okay. Tu peux mentir, etc. Ouais,
mais après, quand il y a l'explosion, c'est dit mais vous êtes médecin, soignez les gens.
L'inspecteur aussi, hein, y a la possibilité, qu'est-ce que vous avez vu, un clown, est-ce qu'il avait quelque chose, on peut répondre oui, non. Ouais.
Voilà.
Après, j'ai pas testé les deux possibilités, je sais pas trop ce que ça change, ce serait intéressant d'aller voir.
Bah, une fois, tu passes pour un menteur, et puis l'autre fois, on va dire que...
Tu es découvert quand tu mens, en tout cas.
Voilà. Ouais. Donc bon, ça change pas énormément de choses au jeu, mais c'est toujours sympathique de savoir qu'on peut avoir des possibilités différentes. Après, bon, soit on joue sur PC, soit sur PlayStation 1. Moi, j'ai joué aux deux versions quand même. Hein. J'ai découvert avec la PS1, mais j'ai joué aussi sur PC. Donc, tout simplement, la souris, on la bouge dans tout l'écran. Et en fonction de ce qui se passe, soit on a une main pour prendre des objets, qui fait... je peux pas faire les gestes à la radio, c'est dommage.
C'est une main blanche, là.
Voilà, qui est très élégante, d'ailleurs.
Ouais.
Et une autre main qui montre du doigt un endroit, c'est pour y aller.
D'accord.
Voilà. Sinon, après, on a une loupe, c'est pour regarder.
Ok.
Ce que je regrette, c'est que par exemple, dans le Director's Cut, maintenant, c'est un œil, si je me trompe pas.
Ça, tu le sais mieux que moi.
Ouais, j'ai pas joué à celui-là. Ouais.
Ensuite, on a aussi une bouche. C'est pour parler au personnage, pas pour autre chose. Hein.
Pas pour respirer.
Voilà.
Et c'est pareil, c'était déjà une bouche sur PlayStation? C'était pas une espèce de micro ou...
J'ai le souvenir de la bouche.
De la bouche,
très
d'accord.
Honnêtement. Après, j'ai pas rejoué sur PlayStation depuis longtemps. Donc voilà, je viens de me faire
dévoiler la face. Des détails, hein.
Mais moi je trouve que justement le système de jeu est simple, efficace et qui n'alourdit pas du tout le jeu, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord.
Bah moi étant une joueuse de point and click sur PC, c'est vrai que le déplacement de cette souris, de cette main à la manette, elle est quand même particulière. Alors c'est une sensation, c'est un peu dur à expliquer. Sur PlayStation, on a donc la possibilité avec la croix de déplacer cette souris et on peut accélérer aussi parce qu'elle se déplace déjà très lentement. Donc déjà c'est un peu lourd par rapport à la souris du PC qu'on peut quand même déplacer très vite. Et on a la possibilité avec R1. Ouais. D'accélérer cette souris parce que sinon c'est un peu trop lourd.
Moi j'ai jamais fait la méthode R1.
C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ah, moi je serais devenue folle si j'avais pas trouvé ce R1.
Et t'as dû galérer parce
et
que
puis,
c'est...
Alors déjà il y a cette lourdeur je trouve de souris qui se déplace lentement. Alors bon, c'est un peu rectifié par le R1. Mais du coup avec le R1 des fois elle se déplace tellement vite qu'elle va faire des mouvements très linéaires. C'est-à-dire qu'avec une souris on va pouvoir déplacer en faisant des vagues, en allant dans les coins très vite, en sautant d'un endroit à un autre.
Si tu veux faire un 8 ou un signe de l'infini tu vas galérer, voilà. Alors que sur ordinateur...
Sur la manette tu vas galérer.
Tu vas te faire un signe de l'infini quoi.
Mais disons pour chercher, parce que c'est vrai que le but dans un point and click, c'est de beaucoup passer, parce que des fois les graphismes sont tellement bien faits que les objets qui vont interagir sont confondus dans le décor.
Ils vont pas te sauter aux yeux.
Ils vont pas forcément toujours sauter aux yeux. Donc souvent ce qu'on va faire quand on est un joueur averti, on va bien se balader dans le décor, on va bien passer partout. Ah. Et là la manette, elle est vraiment usante pour ça.
Alors j'ai deux questions par rapport au gameplay sur PlayStation. De un, est-ce que la souris fonctionne? La PlayStation a une souris.
J'ai pas de souris, donc je peux pas.
On
n'a pas essayé. Ok, deuxième question, est-ce que par hasard ils vont penser à faire un bouton genre, je sais pas, Start ou Select, pour revenir rapidement à un menu? C'est-à-dire que maintenant ton curseur va être en plein milieu de l'écran et tu veux revenir en bas dans les questions, est-ce que tu appuies juste sur ce bouton, tu peux y arriver rapidement?
Alors je ne sais plus si elle revient dans la question. Alors je ne sais plus où elle revient, mais oui, il y a un bouton pour où elle peut revenir.
Voilà,
je ne sais plus à quel endroit elle revient, si elle revient au centre ou si elle revient sur les objets ou les personnages, mais oui. Il y a quand même ça.
Pour avoir joué à d'autres jeux qui, comme ça, d'habitude, sont plus des portages PC que tu joues la souris sur console, d'habitude, ils pensent à ce genre de choses. Ouais. Alors, c'est pas forcément le bouton le plus instinctif au départ, mais ça peut être pratique.
Bah, c'est
vieux ce jeu.
Moi, je
dis pas le contraire. Je dis pas que c'est pas bien. Je demande juste s'ils y ont pensé.
Je m'en rappelle que ça y est parce que j'avais tendance à le faire alors que je ne voulais pas le faire.
D'accord.
Bon, en même temps, même sans ça, le jeu est quand même attrayant. C'est-à-dire, c'est pas la maniabilité qui va faire qu'on perd ou quoi.
Voilà, c'est ça que je voulais rajouter.
Un petit peu plus de temps à trouver sur quoi on veut cliquer, les icônes, bon.
Je critique la manette par rapport à ce type de jeu parce qu'il est préférable d'y jouer sur PC, mais évidemment, je vais quand même applaudir quand même l'initiative parce que ça permet de découvrir ce style de jeu et en l'occurrence là un très beau jeu avec Baphomet à des gens qui sont pas habitués à jouer sur PC. Donc il y a ses inconvénients mais il y a aussi beaucoup d'avantages et la magnifique surprise de pouvoir découvrir ce jeu.
D'accord.
Moi par contre la manette m'avait pas du tout dérangé parce que j'ai toujours fait comme système quand c'est ce type de jeu de passer mes millimètres par millimètre partout de gauche à droite.
Et... Ouais, mais alors tu l'as fait sans faire R1? Mais
non, j'étais sans faire
3 heures.
Ouais. J'avais pas conscience en faisant.
Comme ça, t'es sûr de rien louper.
Est-ce que à l'époque c'était ton premier jeu du genre sur un support ou sur un support? Ouais, donc du coup ça t'a pas dérangé parce que tu connaissais pas le. Enfin,
j'ai vu jouer à plusieurs jeux.
Ouais.
Et puis bon, celui-ci m'a totalement intrigué à cause de son style cartoon en même temps. Et c'est même un jeu qui m'a tellement marqué que quand je disais à mon frère je veux les mêmes types de jeux, etc. Et je disais je veux des jeux drôles.
D'accord.
Et il me disait, mais si tu demandes un jeu de rôle à un vendeur, tu vas te retrouver avec un jeu de Mickey, mais pas un jeu de rôle.
Oui.
Voilà.
Okay. Bah, il y a quand même
un
jeu de rôle.
Diminué.
On va dire pas encore aussi experte, pas
voilà.
Diminué quand même.
Mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est pour moi, c'est le premier que j'ai joué dans le genre au niveau de la PlayStation 1. Parce que c'est Indiana Jones, c'est Blade Runner.
D'accord. Ouais, donc c'était pas non plus ton premier point and click, donc t'avais déjà quand même connu la série, mais ça t'a pas perturbé en fait.
Pas du tout.
Ça, quoi.
Ah non, mais moi je restais à bouche grande ouverte devant la console et puis je jouais pendant des heures. Et puis...
Heureuse Béate.
Ouais.
Voilà. Mais bon, c'était bien, j'étais hypnotisée à cette époque. Et justement, on va parler de la durée de vie, parce qu'il y a 11 chapitres quand même dans ce jeu. C'est pas mal hein, pour un jeu de l'époque. Et si on connaît le jeu, bon, c'est sûr, on peut le finir en 10 heures sans stopper les dialogues, sans stopper les cinématiques, etc.
Ce qui est déjà pas mal. Hein.
Oui, voilà, moi je trouve ça pas mal pour un jeu en soi. Dans le cas contraire, je dirais, allez, franchement, si vous allez assez vite, 15 heures. Sinon, ben voilà, je pense que si vous faites 15 heures, c'est que vous avez bloqué sur certaines énigmes, que vous n'avez pas attendu assez longtemps pour cogiter et que vous êtes allé chercher une solution quand même au bout d'un moment.
Ouais. C'est ce que j'allais dire.
Parce qu'il y a quand même des phases où on reste bloqué assez longtemps.
Ah oui, moi c'est l'Irlande qui m'a fait pleurer à l'époque.
Si tu prends pas de solution et que tu fais une première partie, tu l'estimes à combien de temps de jeu, alors environ?
Je dirais bien 25 heures hein, quand même.
Ouais, moi aussi.
C'est variable.
Ouais.
Ça fait une sacrée différence.
Tu peux rester bloqué sur la même énigme pendant 10 heures. Hein.
Après, ça dépend, t'es à ta console ou l'ordinateur. Et tu vas réfléchir à l'énigme.
Ouais, je suis d'accord
ça
avec toi.
Peut
c'est
être
pas
différent,
pareil.
Voilà. Mais il y a moyen quand même de s'énerver. Hein.
Et puis il y a les énigmes, mais il y a aussi tous les allers-retours qu'il faut faire, tous les objets qu'il faut choper et qu'on ne chope pas forcément du premier coup parce qu'on est passé à côté, on ne l'a pas vu, et donc on est bloqué mais on ne sait pas pourquoi. Et ben c'est tout simplement parce qu'il nous manque un objet mais on ne sait pas où. Parce que quand même, comme dit Clotilde, on se balade beaucoup, il y a beaucoup de tableaux différents. Donc si on manque un seul objet, on sait pas dans quel tableau il est, il faut se faire des allers-retours, il faut, il y a des fois il faut discuter, poser la bonne question au bon personnage, si on l'a pas fait, on se retrouve de nouveau bloqué. Donc ça aussi, ça fait que le jeu va être plus ou moins long en fonction du joueur, quoi.
Et il y a les temps de chargement avec la pièce romaine qui tourne là.
Oui,
ah, on va parler de ça aussi. Moi j'aime bien.
C'est sympa.
Mais bah, je vais juste revenir aux musiques en attendant, comme ça après on pourra parler de tous ces points-là.
D'accord.
Si ça vous dérange pas.
Ah non, non.
Moi les musiques, donc je les trouve vraiment très très adaptées, aussi bien à l'intrigue, au pays que l'on découvre et nous transporte vraiment de A à Z dans l'histoire. Tout cela on le doit donc à Barrington Fellang, un compositeur australien qui a fait énormément de musique pour des séries télé, pour quelques films, mais surtout pour les séries télé. Et tout simplement après, bah, je vais résumer hein, l'histoire de ce jeu. Elle est géniale parce qu'il y a de l'humour, des énigmes et une intrigue qui est vraiment, vraiment sympathique, qui fait de ce jeu un jeu, mais vraiment, mais mythique à avoir absolument.
Le personnage, il a vraiment un humour très particulier. Il est américain, pourtant il a quand même un humour assez british, assez.
Ouais.
Il aime pas trop les blagues, mais en même temps il en fait.
L'humour noir.
Ouais. Et c'est assez marrant, c'est assez agréable de découvrir ce personnage et de voir à chaque fois ce qu'il rétorque. C'est très drôle, quoi.
Moi, quand je vous entends parler de ce jeu, j'ai l'impression qu'il a une âme, une identité vraiment propre et qu'il y a rarement des jeux qui les ont à ce point-là, quoi.
Et ce que je savais pas, c'est que le compositeur, c'était pas forcément un compositeur de jeux vidéo.
Ah non, pas du tout.
Effectivement, maintenant que tu me le dis, ça me paraît logique parce que ce jeu, c'est quasiment un. Il y en a beaucoup des point and click comme ça. C'est quasiment un petit film à lui tout seul.
Interactif.
Et donc, donc d'où le rapport avec les jeux interactifs dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, c'est vrai que ça paraît presque plus logique de faire appel à un compositeur de série, de film, qu'un compositeur type de jeu vidéo. Ça change de toutes les musiques qu'on a déjà diffusées, c'est pas le même style et c'est un style qui va avec le jeu, quoi.
Donc ça colle à l'ambiance, c'est parfait.
Je me retrouve avec les chevaliers de Baphomet qui est en train de tourner sur mon ordinateur. J'ai mal cliqué dessus. Donc on a la scène du début, c'est sympa.
Ouais. Ça nous met en ambiance.
Voilà. Non mais c'est bon, il n'y a pas le son, vous inquiétez pas. Bon, en tous les cas, moi je pense avoir fait quand même le tour en soi du jeu. J'espère vous l'avoir bien présenté et pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez essayer de l'avoir. Maintenant, pour l'avoir, c'est très compliqué. Si vous allez sur le site officiel, eh bien, on va vous dire qu'en ce moment il est sold out et que c'est pas possible de l'avoir. Dématérialisé, oui, de façon illégale, vous pouvez l'avoir, ça dure longtemps pour le télécharger. Sinon, moi j'ai trouvé sur un seul site et je cherche justement l'adresse, c'est pour ça qu'il y a le jeu qui s'est lancé.
Et le direct cut.
Director's cut. Je le déconseille, franchement, ça commence pas de la même façon. Le personnage, ça c'est un des points forts des Chevaliers de Baphomet, c'est-à-dire que le personnage trouvera toujours quelque chose d'intéressant à dire, même s'il soulève une poubelle et qu'il n'y a rien et fait, oh bah je vais pas, il fera une blague ou quoi que ce soit. Là, on commence avec Nicole, qui est quand même moins charismatique, qui est très froide et tout.
C'est la fille qui parle, là.
Non. Sincèrement, ils ont voulu mettre des cases façon BD quand les personnages parlent. Les traits sont plus tout à fait les mêmes. Et quand on lui demande de faire quelque chose, bah, elle fait juste non et elle lève les mains, on sent les épaules.
T'as moins charmé le jeu, en fait.
Totalement. J'ai arrêté au bout d'une heure et demie.
D'accord. Pour revenir sur la disponibilité du jeu, j'ai une question pour toi, Ellie.
Oui.
Toi qui vas t'en attendre dans les dépôts ventes pour acheter des vieux jeux sur PlayStation et Cloud Support, est-ce qu'il est facilement trouvable en dépôts ventes?
On le trouve de temps en temps. D'ailleurs, j'avais en double jusqu'à il y a pas longtemps.
Un ordre de prix pour nos auditeurs, comme ça.
C'est pas forcément très cher, hein. C'est aux alentours de 5 euros.
Ouais, donc
faut le trouver à moins.
Pour les gens qui ont plein de PlayStation à la maison, si vous voulez faire une partie,
c'est...
Il faut savoir que la PS6, la première PlayStation, on peut la trouver dans les 10 euros. Hein.
Ouais, donc ça revient pas encore trop trop cher.
C'est la magie d'eBay, non?
Avec une manette. Mais même, on la trouve
pas forcément eBay, parce que sur eBay, on retrouve des gens qui savent la valeur des jeux et, comme tu dis, de la rareté du jeu. Alors que c'est vrai que souvent en brocante, les gens qui vendent ne connaissent pas, ou en dépôt vente, ne connaissent pas la valeur véritable du jeu.
Ils vont voir des licences, ils vont des fois mettre des prix dessus sans savoir à côté de quoi.
Tout à fait.
Bah, moi, j'ai pris en tous les cas en dématérialisé la trilogie et je l'ai eu pour 10 euros. Donc ça va.
Donc, voilà,
c'est sympa.
Ça reste aussi raisonnable. Je veux dire, ça dépend des personnes. Sinon, ils veulent y rejouer, c'est pas un investissement phénoménal. S'ils veulent le prendre en dématérialisé ou encore sur support d'origine, sinon toujours la maison, c'est pas un investissement colossal.
Voilà, moi j'étais pressée de l'avoir, je savais pas quand est-ce qu'il allait m'être livré, donc valait mieux que j'arrive à l'avoir au final. J'ai dû faire par d'autres méthodes aussi quand même.
D'accord.
Mais bon, non, c'est très compliqué. Sincèrement, je vous conseille vraiment de l'acheter et au moins acheter ça de façon légale.
D'accord.
Voilà. On va parler peut-être de Revolution Software aussi.
Vas-y.
Donc c'est une boîte située à York en Angleterre et qui a malgré un certain succès n'a développé que 9 jeux. C'est pas énorme, hein.
Oh, ça va.
C'est pas tant. Moi je dirais que c'est pas forcément la quantité mais la qualité qui prime.
Bon, il y a les 4 d'entre eux sont les Chevaliers de Baphomet.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, voilà.
Ça réduit la liste.
Il faut savoir quand même qu'à l'époque justement du jeu, il n'avait que 5 ans et une vingtaine d'employés.
Ok, ils sont fait racheter après, ils sont morts
Non, non, ils sont toujours vivants. Hein. Ils sont toujours là, ils vendent toujours leur jeu, on peut aller sur leur site officiel, mais ils ont... Dernièrement, bah, j'allais chercher après, hein, mais si je ne me trompe pas, dernièrement, ils avaient fait un jeu il n'y a pas trop longtemps. Hop, j'essaye. Voilà, en 2006, c'était bah, encore une fois les chevaliers de Baphomet, les gardiens du temple de Salomon. Tout simplement.
En fait, la licence, elle fonctionne tellement bien qu'ils continuent à marcher avec.
Voilà.
Enfin, bon, tellement bien, est-ce que ces suites fonctionnent aussi bien que la première?
Non,
pas, hein.
Parce que les joueurs ont été extrêmement déçus par une version 3D, parce qu'ils ont toujours voulu rester sur la 2D. Et c'est pour ça que même un gros groupe de fans se sont mis à créer les Chevaliers de Baphomet 2.5.
Ouais, d'accord.
Tout simplement. Et c'est vrai que la 3D, ça m'intéresse pas du tout, mais je n'y ai même pas joué, hein, je l'avoue.
Bah c'est ça.
Je vais y jouer pour la première fois dans quelques temps.
Le côté cartoonesque qui nous plaît tellement que si on nous le prend, on n'accroche plus, quoi.
La version 3D, on retrouve le côté cartoonesque. C'est juste un peu moins point and click.
Ouais, mais
c'est plus la tête de genre.
Ouais.
C'est super genre, c'est foutu, quoi.
Mais ouais, non, mais sérieux. Et sinon, bah, tout simplement pour expliquer pourquoi on est passé de PC à PlayStation. En fait, c'est la capacité des machines qui sont, qui étaient à 32 bits à l'époque, qui les a poussés en fait à aller à la découverte de la console. Et ils ont voulu voir ce qu'ils pouvaient faire, sachant que quand même, il y avait 25% des parts de la boîte qui appartenait à Virgin Interactive, qui avait donc le support total de Sony Computer Entertainment. Mmh. Donc ceci explique cela et ainsi de suite. Et,
sinon,
ils sont... et ils ont eu énormément d'aide de la part de Sony pour développer le jeu sur PlayStation.
C'est bien.
Ouais. Donc,
non mais c'est bien, faut le dire.
Et d'ailleurs, je voudrais remercier Charles Cecil, le créateur du jeu en réalité, qui est un ancien d'Activision, qui donc au moment des Chevaliers de Baphomet est allé chez Revolution Software, et qui est le directeur et game designer quand même à l'origine de ce jeu fabuleux. Il est à l'origine aussi du projet, du scénario, et depuis est totalement fasciné par l'ordre des Templiers.
D'accord.
Voilà.
Ah bah ça, à mon avis, au point de vue historique, ça doit être... une sacrée saga, parce que effectivement c'est quelque chose de vraiment historique, hein, et ça passionne vraiment certains historiens et certains fanats d'histoire, donc ça m'étonne pas.
On va enseigner à l'école les chevaliers de Baphomet.
Il y a tellement de mystères encore autour de ces templiers, de ces chevaliers, que ouais, c'est magique, quoi. Ça m'étonne pas que ça fasse un scénar intéressant.
Ouais, c'est logique.
Oui. Non, c'est non, bon, tu as encore plein de choses, je sais pas.
Ah, j'ai plein de choses, si vous voulez,
vas-y,
on pourrait parler
vas-y.
Pendant 3 heures encore. Non, juste aussi saluer les doublages faits par Emmanuel Curtil, ou Curtil, parce que c'est un Français, c'est celui qui fait la voix de Jim Carrey, de Chandler, de Tom Scavo, enfin plein de choses comme ça,
ah ouais.
Et oui. Donc,
je vais l'écouter alors d'une autre oreille.
Moi, je trouvais que ça faisait qu'il avait la même voix que l'américain dans les files à côté. Et pour une fois, c'est rare.
La référence.
Du AB dans Trilogue. Yes,
la
c'est
même
vrai.
Époque.
La même coupe de cheveux.
Mais voilà, pour une fois, tout le monde s'accorde à dire que les doublages sont tout simplement fabuleux.
Ok, ben c'était très bien de le noter. Franchement, c'est une très bonne chose parce que c'est rare. Donc, pour la peine, ça vaut la. C'est bien.
Oui.
On va pas tarder à s'écouter la petite musique de l'Irlande, c'est ça, si je ne m'abuse?
Oui, voilà, tout à fait.
On va danser.
Avec quelques petites vannes d'Irlandais dedans.
En plus.
Et l'explication de comment on fait la bière aussi.
Ah bah ça va être
parfait. Ah, c'est intéressant ça.
En attendant, nous on va se saouler, on vous donne des CG codes juste après, donc on se retrouve d'ici quelques secondes. A tout de suite.
N57.
Un maximum de musique.
Un maximum de musique.
N57 Radio.
It's and Move.
It's and Move.
Salut, vous parlez en quelle langue?
Celle des débiles. Puisque je vous réponds. Thank you.
Comment est-elle brassée?
Ça, c'est le secret des maîtres brasseurs, mister. Chaque barrique est manipulée avec soin selon des méthodes ancestrales, habilement suspendues à des cordes d'un chanvre de grande qualité, puis descendues dans le cave grâce aux forces de la gravité originelle, telle une manne céleste. Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique?
Génération Prestart.
Génération Prestart.
Quelle magnifique réplique vous nous entendre. Elle était vraiment sublime.
Excellente.
Je vais rendre toute la parole à Clotilde parce qu'on
oui,
a parlé hors antenne de quelques précisions que tu voulais faire et j'aimerais vraiment que tu les fasses pour nos auditeurs parce que je pense que c'est intéressant. Allez, vas-y.
Bah alors tout simplement, moi je voulais faire un rapport avec l'inspecteur qu'on retrouve tout au long du jeu. Pour moi, il me fait penser au mentaliste. C'est son précurseur là-dedans parce que il est à fond dans tout ce qui est hypnose et la psycho-enquête, etc. Franchement, c'est tout à fait le mentaliste en moins beau.
En
moins sympathique, mais c'est lui. Après,
il a un petit air Columbo.
Ouais, voilà.
T'as bien les mots quand même. Hein.
Ouais, désolé. James Dean, si tu m'entends, tu peux revenir d'entre les morts. Il y a aussi des références à, bah, tout simplement, donc, à Maigret, Columbo, pas mal, hein, quand même. Mais aussi à Alfred Jarry, l'écrivain, avec Ubu, avec le café de la Chapelle Verte, si je me trompe pas, avec la rue Jarry aussi, enfin, plein de choses comme ça. Ce que je voulais noter aussi, parce qu'à l'époque, franchement, c'est quand même épatant. Il faut savoir qu'il y avait des milliers et des milliers de dessins qui ont été faits pour ce jeu vidéo. On peut voir des photos, si on arrive à bien les trouver, si on cherche bien sur Internet. Il y a une pièce remplie de cartons, plein de dessins. Et en fait, on comprend mieux en sachant qu'il y a 320 attitudes qui ont été dessinées pour Stobart, différentes, et qui sont prévues dans le jeu. Mmh. Et 200 pour les personnages secondaires, donc c'est pas mal.
C'est quand même assez impressionnant.
Après, il y a une petite chose au niveau de la culture dans ce jeu-là. Grâce à ce jeu, on apprend la signification de certaines fleurs. Donc, on apprend que la chrysanthème, c'est la mort. Ça, oui, moi, ça m'a marqué petite. Que les dahlias, c'est l'insécurité. L'iris, la flamme de la passion. Et les petites jaunes, comme ils disent dans le jeu, c'est la sensualité. Voilà, sinon,
notez les geeks, là. Okay. Vous draguez, là. Voilà.
Je vais devoir parler, parce qu'on n'a pas entendu ce soir. Ça va
c'est
être
tout,
Ellie.
J'arrête.
Donc, Ellie, je te donne la parole sans plus attendre, parce que tu as préparé un sujet d'enfer ce soir.
Alors, moi, je vais vous parler dans cette partie Reloaded. Je vais faire un petit jeu pour faire un petit peu original pour une fois.
Allez, ça va changer.
Alors, je vais vous mettre, je vais vous expliquer une phase in-game. Je vais vous faire le descriptif de la scène. Après, vous allez un petit peu réfléchir à ce que vous feriez. Et puis, vous qui êtes autour de la table, vous allez me dire ce que vous faites, puis...
C'est parti,
on va voir si vous avancez dans l'histoire. Alors, descriptif de la scène. Alors, le lieu. Vous êtes toujours, donc, George Stobart. Vous êtes dans le hall dans le hall d'entrée d'un hôtel de grande classe, donc l'hôtel Ubu dont on parlait tout à l'heure. Les personnes présentes. Donc il y a le réceptionniste qui est derrière son comptoir, il garde le tableau des clés, les clés des chambres. Hein. Il y a une lady, c'est Lady Piermont, qui est une aristocrate qui joue du piano, donc on l'a entendu tout à l'heure jouer un morceau de piano, de toute beauté d'ailleurs. Il y a également présent dans ce hall un prix Nobel russe qui lit un journal. Voilà. Donc il y a des escaliers qui mènent à l'étage, donc l'objectif c'est d'arriver à monter ces escaliers. Et un coffre-fort qui est aussi sous le comptoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, notre but, c'est quoi, Ellie ?
Il faut
c'est d'intégrer une chambre...
Oui. Faut essayer, en fait, de monter à l'étage et d'aller fouiller une chambre, la chambre de Merlin, dans l'aventure.
Dont tu n'as pas les clés ?
Non, on n'a évidemment pas la clé.
Ah, sinon c'est trop facile.
Et pas l'autorisation de monter à l'étage.
Je mets un coup de poing au monsieur qui garde les clés, je lui vole les clés et monte à l'étage.
Ouais, non, mais le geek de guerre, c'est moi là.
Quand tu pointes le jeune homme, il n'y a pas marqué taper, ça marche pas.
Je peux pas le transpercer avec ta souris encore.
Non, mais parce qu'après il y a la police qui débarque.
On va discuter, mais on va aller soutirer des informations peut-être à la dame.
À la dame.
Elle a l'air charmante.
Donc voilà, elle se présente. Je suis Lady Piermont, aristocrate. Elle te dit qu'elle a du sang bleu qui coule dans les veines.
Sang bleu.
Ah oui, royal. Elle nous dit ne tremblez pas devant moi, la plupart des gens auraient du mal à me parler tellement mon rang est élevé socialement. Mais lui, ça le dérange pas tellement. Il n'y a pas de souci. Bon, présentation, rien de plus se passe.
Mais on peut peut-être l'interroger.
Tu peux l'interroger, oui.
On va peut-être l'interroger sur justement ce monsieur que l'on recherche.
Elle le connaît pas.
Autre idée.
Sorry.
Clotilde, t'as une idée toi ? Je suis sûr que tu sais toi.
Ouais.
Vas-y, vas-y, faut que ça avance, vas-y.
Faut faire vraiment étape par étape.
Ouais, vas-y.
Ouais, enfin, dans l'ordre que tu veux. Hein.
Bah, il vaut mieux l'interroger un peu sur tout ce qu'on sait, sur tout ce qu'on connaît en même temps.
Et on connaît quoi ?
On connaît pas mal de choses dans l'affaire et donc on veut chercher quelque chose. Et je sais pas pourquoi ils font des signes.
C'est pas grave. Pas grave.
Ils sont souples, ils m'envoient des tips.
Mais voilà, parce que c'est suivant les questions qu'on lui pose, si je me trompe pas, elle va nous raconter une sympathique histoire.
D'amour.
Voilà.
Hein ?
N'est-ce pas ? Et
on me dit qu'elle a rencontré un charmant. Enfin,
oui, qu'elle lui fait, elle fait penser le jeune George Tobart, ça lui fait penser à son premier amour.
Et elle va raconter aussi qu'elle a rencontré quelqu'un récemment.
Ouais, voilà.
Et qu'elle lui en veut.
Tout à fait.
Et donc, à ce moment-là, tout simplement, lui, il va rebondir là-dessus, en quelque sorte, Tobart, donc nous. Et petit à petit, si je me trompe pas, faut...
On comprend que c'est la même personne.
Voilà,
en fait.
On comprend
on
que c'est
la même. On
l'a
interrogée sur le clown, elle avait pas d'informations. Mais en fait, elle nous explique qu'elle a rencontré un homme et cet homme, a priori, c'est le clown.
Serait le clown.
Voilà. Serait le clown.
Donc on en est toujours à vouloir aller dans sa chambre.
On n'y arrive pas.
Donc on va essayer d'aller chez le réceptionniste, puis qu'il va peut-être trouver une clé, peut-être.
Alors, donc sur le tableau, derrière le réceptionniste, il y a une clé qui se trouve.
Donc, wow.
Vous essayez de la prendre. Et qu'est-ce qui va se passer ? On écoute.
Excusez-moi, monsieur.
Pardon ?
J'ai l'impression que vous essayez de voler cette clé.
Mais pas du tout.
Voilà.
C'est pas bien.
Ça ne marche pas parce que quand même, c'est un professionnel, il se laisse pas faire. Alors, maintenant que vous avez parlé à la lady et que vous savez que le réceptionniste ne vous laisse pas accès à la clé...
Alors, comment on va l'obtenir ? Dis-nous, parce que je crois qu'on est un peu chaud au niveau timing, non, Martin ?
Ouais, un peu.
Je sais pas, moi, on va redemander si elle peut pas faire quelque chose pour nous, par exemple.
Donc on va redemander à la petite dame.
Exactement.
Excusez-moi, madame.
Oh, hello, George. Que puis-je pour vous, maintenant ?
Pourriez-vous occuper le réceptionniste pendant que j'emprunte une clé ?
Vous me demandez d'être la complice d'un acte criminel, darling.
Oh non, c'est la clé d'une chambre libre.
Et puis-je vous demander pourquoi vous voulez entrer dans une chambre vide ? Vous comptez la squatter ?
Non, madame.
Parole de scout ?
Je n'ai jamais été scout, madame.
Vous auriez dû. Mais à quoi donc pensaient vos parents ? C'est idéal pour former le caractère. Dites-moi vraiment pourquoi vous voulez entrer dans cette chambre ?
J'espère que c'est la clé de la chambre de Merlin.
Comment pourrais-je refuser ?
Mais non, ils veulent l'emmener dans la chambre.
Voilà.
Ah ouais, il est chaud en fait.
La lady très sympathique va accepter de vous donner un coup de main. Donc vous allez tous les deux voir le réceptionniste.
Et là... vous le petit bonhomme.
Oui, madame.
Vous comprenez mon accent, j'espère.
But of course, madame.
Parfait. J'aimerais entreposer des bijoux dans votre coffre-fort.
Je comprends.
Mais vous êtes bien sûr.
Mais tout à fait, madame.
Elle est maligne.
Oui. Donc, elle est très futée. Et il va donc chercher la clé du coffre. Et pendant ce temps... Vous avez le temps de prendre la clé. Non, tranquillement. C'est quand même un point and click. C'est pas un jeu d'action.
Oui, c'est vrai en plus.
On prend la clé et c'est bon. Vous pouvez monter à l'étage.
Ouais. D'accord.
Ce que je veux dire, c'est que justement, par rapport par rapport au temps de jeu dont on a parlé tout à l'heure, là, il a pris la version rapide. Ouais. Mais il y a un autre personnage. On peut parler avec l'autre personnage. On va montrer les objets qu'on a pour chercher des indices parce qu'on se dit quand même peut-être qu'elle sait des choses. Donc en fait, ça prend plus de temps.
C'est le jeu, en fait.
Voilà.
Alors, moi, je voulais dire qu'on est un peu pressé par le temps ce soir. Donc, j'aimerais qu'on remercie les auditeurs qui nous ont posé des questions, qui étaient sur le chat. Alors, pour les questions uniques, avec quels auditeurs ils en ont posé? Même si on n'a pas le temps de les poser,
alors,
pas grave.
Alors, je tiens à remercier Shadow, Alex, ainsi que Shank.
Ok,
on a répondu à beaucoup de questions déjà pendant le speech de Clotilde.
J'avoue, ce soir, on a vraiment plus le temps pour les questions. On est un peu hors délai, ça arrive de temps. C'est pas grave.
Donc,
on va se donner rendez-vous la semaine prochaine avec un jeu qu'on ne sait même pas encore ce que c'est parce que c'est comme ça. Et de toute manière, il y a des CV codes à gagner. Donc, le code est pour les CV codes. Clotilde.
Oui, le code c'est en minuscule UBU, UBU.
Trois lettres, UBU.
Tout simple.
Voilà, simple.
Ok, parfait. Le temps de remercier les gens qui nous ont écoutés, de dire que Génération Prestart touche à sa fin, malheureusement, que Try Again on reviendra la semaine prochaine. On fait un petit coucou à nos amis de Second Envoi qui arrivent juste après.
À Lionel
qui est pas là encore. Et puis on va faire un petit au revoir général rapide. Honneur à Ellie, parce que c'est un homme et comme ça les dames finissent.
Bon, salut à tous. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que le jeu vous a plu et que vous étiez pas trop largués, que vous avez trouvé des réponses. Voilà.
Moi, j'ai envie de dire merci à Clotilde qui a vraiment bien performé son sujet. Il n'y avait pas de raison qu'on reçoive Vince et qu'on reçoive pas Clotilde.
Je suis la meilleure.
Donc, merci beaucoup et puis à la semaine prochaine.
Merci à vous, merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. J'espère que ça vous a plu.
Écoute, moi, je te remercie pour être venu parce que c'est vraiment très très plaisant de faire ça avec toi ce soir.
Merci.
Avec toi. Et du coup, à la semaine prochaine à tous les zigotos. On se quitte avec la musique Espagne et donc rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine. Ciao, ciao.
M57 Radio.
Il faut être réaliste, nous avons besoin d'une aide extérieure. D'un spécialiste.
Qui suggères-tu? Indiana Jones? Il y a un homme avec une épée et un taureau.
Le seul taureau de la mythologie que je connaisse, c'est le Minotaure, mais il n'était qu'à moitié taureau.
Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau, même si c'était la moitié inférieure.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
En partenariat avec culturegames.com. Game over.